Chrétien d'Orient, Sébastien de Courtois.
Bonjour, ce matin dans Chrétien d'Orient, nous continuons notre série d'entretiens avec des spécialistes des langues rares et anciennes. Nous avons reçu à l'automne dernier le professeur Jean-Pierre Mahé qui était venu nous parler de la construction de l'alphabet arménien et je suis ce matin en compagnie de Françoise Briquel-Chatonnet, une habituée de nos émissions. Nous vous écoutons régulièrement sur le monde syriaque et ses dépendances, j'allais dire, qui peuvent nous amener jusqu'en Asie centrale et en Chine comme nous allons le voir ce matin. Bonjour Françoise.
Bonjour Sébastien.
Alors c'est un de vos articles qui a interpellé mon attention, la langue du paradis, la langue comme patrie. Alors il s'agit, on peut le dire tout de suite, sans révéler un grand secret, qu'il s'agit du syriaque. Oui. Et vous allez nous expliquer un petit peu comment cette association avec le paradis s'est constituée dans l'histoire.
Eh bien, dans le monde de la Bible, j'allais dire des religions de la Bible, s'est posé la question de savoir, puisque Dieu dit que la lumière parle à Adam, en quelle langue il a parlé. Et finalement, il y a eu grosso modo deux hypothèses. Soit il s'agissait de l'hébreu, soit il s'agissait de l'araméen et particulièrement du syriaque. On aurait pu poser l'hypothèse du grec, ça n'a jamais été le cas. Ça n'est pas complètement uniquement les juifs qui ont posé l'hypothèse de l'hébreu et les chrétiens, celle du syriaque. C'est un petit peu plus mélangé, mais effectivement, l'hypothèse que la langue originelle est le syriaque a eu un succès vraiment important. Avec que la première langue était celle de la Mésopotamie, puisque c'est là où l'on situe plus ou moins les débuts de l'humanité, que avant la dispersion, on était à Babel, donc à Babylone, que Abraham est venu de là, et sans doute parce que l'époque où on y a réfléchi, la langue locale était l'araméen, ça a beaucoup renforcé l'hypothèse du syriaque.
Les chrétiens syriaques comme les juifs se sont interrogés sur la langue parlée alors par Dieu. Quelle interrogation tout de même, la première langue de l'histoire du monde qui tirait de cette antériorité absolue et de son usage à l'origine divin un prestige particulier. Alors il y a des auteurs de l'Antiquité tardive qui ont répondu, qui ont essayé de répondre à cette question. Théodoré de Cire, je crois notamment, au 5e siècle en Syrie.
Le premier qui a dit ça, c'est Théodore de Mopsueste, qui a été un grand théologien, qui a écrit lui-même en grec d'ailleurs. Théologien donc de Syrie, si vous voulez, de la Grande Syrie. Et même si Mopsueste est actuellement situé dans le territoire de la Turquie. Et il écrivait en grec, mais il s'est posé la question et il a répondu qu'il s'agissait du syriaque. C'est un théologien qui, à son époque, a été considéré comme un grand théologien, mais qui a été anathémisé après sa mort, au moment où la théologie s'est un petit peu plus affinée, disons. Mais qui restait le grand, considéré comme l'interprète par excellence, par les chrétiens de l'église de l'Orient, celle de l'Empire sassanide, de l'Empire perse. Et alors, il a donc dit qu'il s'agissait du syriaque, qui a été parlé par Dieu, d'abord, effectivement, au moment de la création, puis à Adam, y compris quand il les a expulsés. Donc Adam, la première langue, c'était le syriaque.
Alors c'est un point de vue qui n'est pas partagé par tout le monde à l'époque, par tous les auteurs syriaques, et c'est une autre tradition bien ancrée qui affirme au contraire, comme vous l'avez dit, que la langue du paradis était l'hébreu. Les langues sont quand même assez proches, hein. Nous sommes dans ce bassin mésopotamien. C'est notamment dans la ligne du livre des Jubilés, ce qu'affirme Jacques d'Édesse, ou encore l'auteur de la chronique de 1234. Alors, le débat.
Eh bien voilà, c'est de savoir quelle est la première langue. Ce sont majoritairement les auteurs syro-orientaux, c'est-à-dire les auteurs de l'Empire perse, ou de l'ancien territoire de l'Empire perse, qui ont affirmé qu'il s'agissait donc du syriaque. Jacques d'Édesse, par exemple, un grand auteur de la tradition syro-occidentale, lui tient pour l'hébreu. Mais ça n'est pas non plus un partage complet, puisque Michel le Syrien, par exemple, le grand patriarche de l'Église occidentale, revient à l'hypothèse du Syriaque. Certains ont même affirmé que l'hébreu était en fait une sorte de langue mélangée, de sabir, qui mélangeait le syriaque avec la langue des Cananéens. Abraham, bien sûr, était parti d'Ur en Chaldée en parlant le syriaque, l'avait affiné en passant à Haran, donc à côté d'Édès, et puis ensuite, il est arrivé en Terre Sainte où il a trouvé une autre langue, et donc, disons que l'hébreu est une sorte de créole.
Alors avant d'avancer un petit peu plus loin, peut-être redéfinir ces familles de langues qui nous sont familières, parce que nous connaissons ces régions et ces sujets, mais pour nos auditeurs peut-être, d'un côté l'hébreu, vous avez mentionné l'araméen et vous avez mentionné aussi le syriaque. Il s'agit d'une même famille de langues.
Alors, il s'agit d'une même famille de langues. De toute façon, le syriaque est de l'araméen. Donc, il y a une grande langue ou groupe de langues qui s'est séparé avec des nuances. Et le syriaque est l'araméen d'Édès, une ville de Haute-Mésopotamie qui a joué un tellement grand rôle dans la christianisation de l'Orient que c'est sa forme de l'araméen qui est devenue la langue des chrétiens d'Orient. Alors effectivement, toutes ces langues appartiennent grosso modo à la grande famille des langues sémitiques qui est divisée en deux grands ensembles, sémitiques de l'Est, les langues anciennes de la Mésopotamie, l'Akkadien, et sémitiques de l'Ouest. Et dans les sémitiques du Nord-Ouest, on ne peut pas entrer non plus dans tous les détails, il y a eu... En tout cas, ça se voit bien au premier millénaire avant Jésus-Christ, deux groupes, le groupe araméen et le groupe qu'on appelle conventionnellement cananéen, auquel appartient l'hébreu. Ce sont des langues extrêmement proches, la plus grande partie du vocabulaire est la même, le système verbal est le même.
L'écriture se ressemble, quand on n'est pas tellement averti, on pourrait confondre.
Ben, il s'agit d'alphabets. C'est d'ailleurs dans ce groupe sémitique du Nord-Ouest qu'a été inventé l'alphabet. Et tous les alphabets, aussi bien utilisés par le monde des Juifs que le monde araméen, dépendent du même proto-alphabet qui ne note que les consonnes. Alors après, ils ont évolué et les alphabets sont très distincts et on ne peut pas non plus confondre une inscription en syriaque et une inscription en hébreu. Mais ils ont beaucoup évolué. Mais la langue est restée vraiment très proche. Alors il y a des marqueurs, certains mots qui sont différents, par exemple en hébreu et en araméen. L'araméen utilise un article, alors que l'hébreu utilise un article, alors que l'araméen utilise une autre manière de marquer la détermination par un suffixe. Mais bon, sinon, ce sont des langues très proches.
Alors revenons à la fin, au début de cette antiquité tardive, au tournant de l'époque de Jésus et des apôtres. On dit souvent que l'araméen est la langue du Christ. Bon,
l'araméen est la langue du Christ, mais ce n'est pas le syriaque, parce que Jésus parlait l'araméen de Palestine, alors que le syriaque est l'araméen de Haute-Mésopotamie, dans la boucle de l'Euphrate. Mais ce sont des araméens. Donc, il y a des nuances.
Vous dites des araméens, en fait, au pluriel,
oui.
Plusieurs
à
langues.
À cette époque-là, il y a vraiment des araméens. D'une certaine manière, il y a toujours eu une certaine variété dans l'araméen. À une époque, et essentiellement à l'époque de l'Empire perse, Achéménide, c'est-à-dire entre le 6e et le 4e siècle avant Jésus-Christ, l'araméen a été une langue vraiment internationale, parlée et on a des traces depuis le sud de l'Égypte jusqu'à l'Ouzbékistan, et l'Afghanistan, le Pakistan, et de l'Arabie jusqu'à travers toute l'Anatolie. Et là, on a une grande unité, c'est-à-dire qu'on a une forme de langue internationale très unifiée.
Est-ce qu'on pourrait dire, par exemple, que l'hébreu soit la langue de la religion, de la liturgie, de la religion juive, et l'araméen sous ses formes variées, une langue plutôt vernaculaire, une langue administrative, comme vous l'avez dit, avec l'époque achéménide?
L'hébreu a été la langue parlée dans les royaumes d'Israël et de Juda. Et ça a dû continuer à l'être pendant un certain temps. Mais effectivement, dans le Proche-Orient, peu à peu, l'araméen a gagné, donc langue internationale, mais est aussi devenue de plus en plus la langue parlée. Après la disparition du royaume d'Israël et surtout de Juda, l'hébreu n'a plus été une langue d'un État. Et peu à peu, a été aussi un petit peu remplacée comme langue parlée. Alors, à quel moment il a pu ne plus être du tout langue parlée, c'est extrêmement difficile à dire. C'est difficile à dire pour toute disparition de langue orale dans l'Antiquité. On n'en a pas de traces. Il y a eu des essais de le ressusciter au moment de certains nombres de révoltes juives, comme Bar Korba, où on a réécrit en hébreu, mais avec vraiment un relent nationaliste. Et puis, bon, ensuite, il n'a effectivement plus tellement été une langue parlée. Et le monde juif utilisait de façon générale, pour l'usage courant, l'araméen, aussi bien en Babylonie que dans le monde juif, y compris de Méditerranée. Un acte de mariage d'un juif était toujours en araméen, aussi bien en France que...
Mettons de côté, bien entendu, le monde grec dont vous parliez tout à l'heure. Jusqu'à l'apparition du christianisme au Proche-Orient, on ne peut pas vraiment différencier le monde juif d'un côté et le monde araméen de l'autre.
Alors, qu'est-ce qu'on appelle le monde araméen ? Il y a différentes populations qui parlent... L'araméen était très largement parlé, à côté du grec quand même, qui, après Alexandre, s'était implanté, au moins dans les villes, mais aussi en partie dans les campagnes. À la fin de l'ère avant Jésus-Christ et au début de notre ère, différents araméens dans différents endroits. On connaît le palmyrénien, on connaît le nabatéen, et l'araméen juif est un de ces araméens, et plusieurs de ces araméens, parce que l'araméen juif de Palestine n'est pas l'araméen juif de Babylonie non plus.
Dans Chrétien d'Orient, nous sommes ce matin avec Françoise Briquel-Chatonnet pour évoquer la langue du paradis en toute simplicité, et maintenant la langue comme patrie. Alors là, c'est une extension dans le temps et vers le présent, vers l'époque contemporaine, où vous arrivez finalement, c'est un article qui me sert de réflexion sur qui guide notre conversation de ce matin, où vous parlez justement de ces époques très anciennes, mais vous dites aussi, vous laissez sous-entendre que cette question de langue reste toujours vivante. Alors là, nous sommes plutôt dans le contexte de ces communautés syriaques qui appartiennent à des églises orientales, mais la langue reste ce ferment identitaire.
La langue reste, mais l'identité s'est en grande partie construite là-dessus. Contrairement, par exemple, au monde arménien, qui correspond à un territoire, qui a une histoire politique, il y a eu une Arménie historique, qui donc une construction nationale un petit peu plus facile, contrairement au monde copte. Les coptes sont les Égyptiens, les Éthiopiens chrétiens sont les Éthiopiens. Le monde syriaque est absolument divers. Il ne correspond pas à un territoire, puisque les maronites, par exemple, du Liban, comme les chrétiens de Saint-Thomas au sud de l'Inde, se disent syriaques, et ça, bon, donc, c'est transféré à travers tout le Proche-Orient. Il n'y a jamais eu un État syriaque. Il y a eu un petit royaume d'Édesse qui n'était pas chrétien. On a parlé de la conversion d'Abgar. On a construit une idée d'un petit royaume chrétien, mais ça a duré très très peu. Et ensuite, donc, le monde syriaque ne correspond pas ni à un lieu, ni à un état. Il a été dans le monde romain comme il a été dans le monde perse. Ensuite, il a été en monde arabo-musulman, turc, chinois, mongol, Inde. Donc, le seul point commun, c'est cette langue qu'en plus, les gens ne parlent pas. C'est-à-dire que la langue syriaque, c'est la langue d'Édesse qui était parlée à Édesse, dans le royaume de Sroène, qui a dû être parlée pendant pas mal de siècles, mais juste dans cet endroit-là et sur un territoire relativement restreint, mais qui a été la langue de la culture chrétienne, de tous les chrétiens du Proche-Orient.
Alors, c'est une langue qui existe tout de même sous des formes variées actuellement au Proche-Orient. Je pense au dialecte, le Turoyo, par exemple.
Alors, le Turoyo en Turquie, le Sourette au nord de l'Irak, sont des formes de néo-araméen, donc des langues modernes de l'araméen, qui ne viennent pas directement du syriaque, qui viennent des araméens qui étaient parlés autrefois dans différentes régions. Le Turoyo est peut-être un petit peu plus proche d'Édès, mais ce n'est pas non plus cet endroit-là. C'est-à-dire que effectivement, ce sont des langues que seulement les chrétiens ont conservées, mais c'est le prolongement de dialectes araméens anciens qui ne sont pas le syriaque. Le syriaque, c'est vraiment la langue d'Édès et donc la langue dans laquelle s'est construite. C'est traduit la Bible d'abord et c'est la Bible qui a été diffusée partout. Pensons au rôle qu'a pu jouer la Bible de Luther dans la construction d'une culture allemande ou la King James dans la construction d'une culture en anglais. Et là, c'est la même chose, c'est la Bible, c'est les textes, un certain nombre de textes comme les Actes de Thomas, comme toute la poésie d'Éphrem, qui est commune à toutes les églises syriaques et qui donc a encore intégré à la liturgie tous ces hymnes. C'est ça qui a fait l'unité, d'une certaine manière, du monde syriaque. Donc, c'est une langue de culture, une langue liturgique qu'on a pu parler, par exemple, dans les monastères, mais comme on parlait le latin au XVIIIe siècle.
Vous nous décrivez une langue d'église, en fait. C'est cette langue de la liturgie toutes ces églises de tradition syriaque qui vont des maronites jusqu'au syriaque orthodoxe, syriaque catholique, chaldéen,
assyrien, voilà. Et toutes les églises de l'Inde, oui.
D'accord, mais les églises ont été quand même
C'est la langue des chrétiens. Et comme les chrétiens n'ont jamais formé un État, ils ont été toujours minoritaires dans des États qui ne l'étaient pas, et je dis aussi en monde byzantin, puisque les chrétiens syriaques, par exemple, Miaphysite, était minoritaire dans un État qui voulait imposer la reconnaissance du Concile de Chalcédoine, c'est effectivement autour de l'identité ecclésiale que l'identité syriaque s'est formée.
Alors, non pas pour simplifier, mais pour complexifier un petit peu le débat, vous écrivez « À une époque où on ne maîtrisait plus l'usage de la langue syriaque, l'écriture est apparue comme le dernier rempart de l'identité, symbolisant en quelques signes une langue qu'on ne savait plus écrire. L'écriture est alors le dernier élément restant de l'identité linguistique. Vous nous avez parlé d'Asie centrale, vous nous avez parlé de Chine. Le syriaque, en tant qu'écriture, est allé jusqu'en cet Extrême-Orient.
Alors, le syriaque est allé dans cet Extrême-Orient, mais aussi en tant que langue, parce que les églises syriaques accordaient une grande importance à leur propre langue. Et autant l'église grecque a évangélisé Cyril et les méthodes ont tout de suite inventé un alphabet pour écrire tout en slavon. Mais l'église syriaque a emporté les textes syriaques. Il y a eu des traductions, mais la liturgie et beaucoup de choses continuaient à être en syriaque. Mais effectivement, à un moment, et c'est plutôt à une époque où on a de plus en plus, le phénomène est apparu en fait avec l'arabe. À une époque où les chrétiens ont arrêté de parler l'araméen, qu'ils devaient sentir très proche du syriaque, mais sont passés vraiment à une autre langue, et la bascule s'est faite peu à peu, différemment selon les régions. Ça a été beaucoup plus rapide en Syrie et au Levant, plus tard en Haute-Mésopotamie et dans toute la vallée des deux fleuves. Certains sont complètement passés à l'arabe sans autre souci. Mais ceux qui ont basculé plus tard ont eu le souci de garder ce qui pouvait être leur identité. Alors, ils ne parlaient plus le syriaque, ils ne savaient plus vraiment l'écrire.
Mais donnez-nous d'autres exemples. Je parlais de l'Asie centrale. Il y a du sogdien, il y a des langues turques qui
ont
été écrites en syriaque.
Ce phénomène-là, on s'est aussi développé dans d'autres traditions. Et effectivement, on a écrit le syriaque en alphabet sogdien. On a écrit le sogdien en alphabet syriaque. Du sud, on écrit aussi quelquefois le malayalam en alphabet syriaque. Alors là, c'est plus compliqué parce que tant qu'il s'agissait d'écrire l'arabe, c'est quand même une langue sémitique, donc assez proche, les sons sont un petit peu les mêmes, même si l'arabe a 28 phonèmes et qu'il fallait les écrire avec 22 signes. Donc, c'était pas pratique. On a aussi essayé de dire que c'était fait pour cacher les textes aux non-chrétiens. N'importe quel musulman est incapable d'apprendre 22 signes de l'alphabet syriaque. Ça n'avait rien de cryptique. Donc, c'est vraiment identitaire. Mais effectivement, ça s'est développé aussi en Asie centrale avec différentes langues mongoles ou autres.
Alors, Françoise Briquel-Chatonnet, vous êtes chercheur, vous êtes au CNRS, vous produisez, mais vous voyagez aussi énormément. Et vous avez été récemment en Asie centrale, vous avez été au Kirghizistan il y a quelques temps, vous êtes allé au Tadjikistan, si je me souviens bien. Vous avez essayé de retrouver vous-même les traces de cette chrétienté syriaque d'Extrême-Orient?
Les voyages que j'ai pu faire en Asie centrale ont été malheureusement un peu rapides. J'ai vu des éléments, effectivement, de monuments dans les musées. J'ai essayé de retrouver l'église d'Ourgout. Bon, elle a été fouillée, elle est connue, mais sur place, on ne voit plus maintenant grand chose.
Elle est dans quel pays, cette église?
Elle est en Ouzbékistan, quelques kilomètres de Boukhara, enfin 50 kilomètres à peu près. J'ai surtout travaillé en Inde du Sud, et c'est surtout là que j'ai essayer de trouver toutes les traces qu'on pouvait avoir un petit peu anciennes de la présence de ces chrétiens syriaques.
Un détail intéressant pour refaire un bond dans l'histoire vers le présent, le syriaque donc est enseigné maintenant dans des écoles, à la fois dans les églises du Proche-Orient, mais aussi dans la diaspora. Nous en avons des exemples en France, en Belgique, en Suède, par exemple, et des publications. Et je vois que Tintin est traduit en syriaque, Saint-Exupéry, et le Petit Prince.
Oui, j'ai vu aussi, j'ai chez moi le Prince de Machiavel en syriaque. Donc, il y a effectivement, sans doute à nouveau avec un souci d'identité, une volonté de faire vivre le syriaque, qui est particulièrement sans doute sensible dans l'église syriaque orthodoxe, qui est avec une volonté effectivement de créer des outils d'apprentissage du syriaque pour les enfants, de les faire vivre dans un milieu où on peut parler le syriaque. Donc, d'une certaine manière, une renaissance du syriaque que l'on a longtemps appelé ktovonoyo, ce qui veut dire la langue écrite.
La langue du livre.
La langue du livre, comme une langue à nouveau parlée. C'est dans des milieux relativement récemment arrivés en Occident qu'essayent de le maintenir. Bon, la question se pose combien de générations et d'intermariages cela pourra durer. Mais c'est une très belle initiative, oui.
Nous étions ce matin en compagnie de Françoise Briquel-Chatonnet. Merci Françoise.
Merci Sébastien.
Alors je voudrais rappeler aussi une édition, une étude importante dans la collection des études syriaques, le volume numéro 15, les auteurs syriaques et leur langue. Voilà pour ceux qui voudraient continuer par des lectures un peu plus approfondies aux éditions Göttner. Nous retrouvons maintenant le service protestant. Je voudrais remercier Dany Journeau, Claire Poinsignon et Valérie La Valard pour la réalisation et la technique de cette émission. Bon dimanche.